C'est très rare qu'on arrive à Paris à 20 ans et qu'on se trouve dans une conjoncture si positive. On n'avait pas d'argent, mais Paris en 78, pour moi, brillait. J'avais l'impression qu'il y avait des particules d'or dans l'air.
Une échappée avec Didier Lestrade, journaliste, écrivain, militant, séropositif affirmé. C'est comme ça qu'il se présente sur la quatrième de couverture de ses mémoires, annoncée comme son dernier livre. Didier Lestrade a grandi avec son père et ses frères dans une ferme du Lot-et-Garonne après le divorce de ses parents et leur départ d'Algérie. Ensuite, il voyage à Londres, monte à Paris, découvre New York et une association de lutte contre le sida qui invente l'activisme moderne, c'est ACT UP. Il cofonde ACT UP France et l'histoire a inspiré le film 120 battements par minute de Robin Campillo. Didier Lestrade, c'est donc une vie de militantisme, de musique et d'aventure de presse aussi. Il a créé la revue Gay Magazine au début des années 80, lancé Têtu en 95. Il a écrit sur la naissance de la dance music et du hip-hop pour Rolling Stone et Libé, tout en parlant du virus du sida. Il a quitté Paris vers l'âge de 40 ans et aujourd'hui, il en a 67. Didier Lestrade est venu me chercher à la gare du Mans avec son pick-up. Il m'a raconté que sa première voiture était une 4L, qu'il avait acheté à un mec des RG d'Alençon super sexy. Et avant qu'il ne démarre, je lui ai dit « Attendez, quand vous mettez le contact, faut que j'enregistre. » Et là, je pense qu'il s'est dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille ?»
Dotémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Je suis prête là.
Allez, on est parti.
Vous avez appris à conduire en quittant Paris, en fait.
Oui, typique. Ben, j'ai toujours pensé que j'avais pas besoin d'apprendre à conduire, étant donné que j'étais à Paris. Et du coup, ben, j'ai commencé très tard, à 48 ans, en arrivant à la campagne.
C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment de votre vie, quand vous étiez adolescent, jeune adulte, où Paris était un Graal. Oui. Et arrivé à 40 ans, vous écrivez d'ailleurs que de revenir à la campagne, sachant que vous avez grandi dans la ferme de votre père, c'était un rêve aussi.
Oui, j'ai réalisé que quand j'allais à la campagne avec mon ex Jean-Luc Bonnet, j'aimais avoir de la boue à mes pieds. Alors que quand j'étais jeune, je détestais ça, quoi. Les chaussures toujours sales. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, la boue, ça me dérange plus. J'aime ça. Et donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc, ce besoin de jardiner, ce besoin d'être en contact avec la nature. Et c'est vrai que mon travail, ACT UP, le militantisme, ça m'a écarté de ça. Et c'est vrai que quand j'allais mal, le truc qui me faisait rêver, c'était ça. C'était cette possibilité de respirer, de sortir d'ACT UP, de sortir du journalisme et de faire des trucs avec mes mains. Je crois que si j'avais pas fait ACT UP, j'aimerais toujours Paris.
Pourquoi ACT UP a modifié votre image de la ville ?
Parce que c'est 15 années de militantisme. Regardez-moi ce fou. C'est 15 années de militantisme et forcément, ce militantisme, il est géographique. C'est-à-dire que les endroits, les quartiers où vous faites des actions, où vous faites des picketing ou des réunions, des fois, qui sont stressantes et tout ça, ça vous marque, ça imprime dans la géographie de Paris. Et des fois, vous êtes obligé à chaque fois de repasser devant et le souvenir revient de quelque chose qui n'est pas forcément conflictuel, mais qui a été dur. Donc, la répétition des réunions, la répétition de... Cette répétition pendant 15 ans d'aller à des réunions, d'y aller presque tous les mardis soirs, et puis les réunions médicales, les réunions avec les labos. Donc ça finit par entacher tout un paquet d'endroits de Paris. Et en fait, ces taches-là finissent par se rejoindre. Et puis en fait, c'est comme un papier buvard. Et puis j'ai passé à New York, j'ai passé dans d'autres villes à Londres. Donc c'est... vraiment une ville qui m'a marqué au niveau du travail. Et ce travail, ça a été un long tunnel parce que il faut s'y tenir. On peut pas décider comme ça. Non, je vais plus aller en réunion. J'en fais déjà assez. Non, il y a un travail de représentation qui fait que vous devez être présent.
Faut pas lâcher.
Et donc cette idée de pas lâcher, elle est contraignante. Bien sûr, elle est valorisante parce que ça montre que on est fidèle, que on s'accroche. Mais des fois, vous venez uniquement pour la représentation, pour soutenir les autres. Parce que si les autres voient pas, tout de suite ils commencent à se poser les questions. Parce que quand on est fondateur, c'est pas pareil que les autres. Quand on crée un truc comme Act Up, on en est responsable jusqu'au moment où on en part. Donc, cette responsabilité, elle a un poids. Je vous fais ça la seule fois, je viens de dédoubler deux camions. Mais c'est ça ou autrement. Après, pendant 10 km, on est bloqué derrière eux. Qu'est-ce que je disais ? J'ai oublié.
La question que je voulais vous poser aussi, c'est que finalement, il y a une boucle dans vos mémoires. Il y a l'enfance dans la ferme de votre père, dans le Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, vous vivez à la campagne en Mayenne. Et dans ce dernier chapitre, vous parlez de votre père. Et c'est votre père qui vous a transmis ça.
Oui, parce que mon père était agriculteur, donc forcément quand on vit dans une ferme, on est obligé d'apprendre, de toute façon. Il m'a appris beaucoup de choses dont j'ai même pas parlé dans le livre. Vous savez, comme par exemple, comment tailler les hortensias, comment tailler les rosiers. À partir d'un certain moment, mon père ne faisait plus ça, c'était à nous de le faire. Tous ces trucs-là, il faut les apprendre quand on est petit et aider à la famille. Et je pense que ça a été, dans les conflits que j'ai eus avec lui, ça a été un des aspects où en tout cas, il n'y avait pas de dispute parce que je voyais très bien qu'il m'apprenait des choses que j'avais envie d'apprendre.
Mais vous dites, c'est l'une des seules choses où on ne s'engueulait pas, où je l'écoutais, parce que par ailleurs, vous développez pas ces conflits, mais il a cette phrase que vous citez, où il dit à vos frères et vous, « Vous n'êtes pas mes fils ».
Oui, mais ça, c'était presque un peu drôle. Mais c'est vrai qu'il y avait une déception. Il y a une déception. On était 3 gays sur 4. Qu'est-ce que vous voulez ? On faisait pas du tout les trucs que mon père faisait quand on était jeune. Réparer des tracteurs, démonter un moteur. Donc, il y avait une déception quand même. Donc, imaginez un père avec 4 fils qui lui font un peu honte, dans une certaine mesure. Je veux dire, bien sûr, il y avait une fierté d'avoir 4 fils. Mais il suffisait de nous regarder pour voir qu'on était différents. Et donc, forcément, c'était un regard qu'il devait affronter lui-même aussi tous les jours. Mais c'est surtout, je crois que on l'a... Je crois que mai 68 a eu un impact sur notre génération qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Surtout qu'on a passé les 20 dernières années à se moquer de mai 68. Enfin, partout, quoi. La droite... n'a pas arrêté de critiquer ça, mais pour nous, mai 68, ça a été quelque chose de fondamental. Donc, il y avait une révolution, et même si on était loin à la campagne, cette révolution, elle arrivait jusqu'à chez nous. Et donc, forcément, en tant que jeunes, on était le reflet de cette révolution politique.
Là, comme je suis à côté de vous, je vous vois de profil, et je vois un tatouage dépassé de votre col roulé.
Qui dit « yes ».
Qui dit quoi ?
Yes, c'est une calligraphie. J'ai trouvé ça drôle de mettre ce tatouage-là parce que d'abord, j'adore les tatouages dans le cou et il n'est pas forcément visible, mais quand on s'approche, on voit que yes, ça veut tout dire. C'est un truc d'acceptation, de oui à la vie. Mais... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme quelqu'un qui radote un peu, qui est toujours en colère, qui a toujours quelque chose, qui est toujours dans l'insatisfaction. Mais En fait, ce tatouage dit au contraire que je suis content de ma vie, je suis content de ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis aigri, mais c'est pas vrai, je suis pas aigri. Je regrette certaines choses, et c'est normal, je me demande qu'est-ce qui ne regrette pas certaines choses à la fin de sa vie, mais je suis pas aigri. Et c'est précisément parce que je vis à la campagne que je suis pas aigri. Si je vivais à Paris, oui, je serais malheureux, il faudrait que j'aille voir un psy. Et à la campagne, ben, la campagne, la nature me nettoie de ça tous les jours.
On n'a plus doublé ce camion. Didier Lestrade m'a raconté avoir eu un accrochage récemment à cause d'un vieux pépé qui roulait à 20 à l'heure. Moi aussi je suis vieux, il a dit. J'ai 67 ans et je suis typiquement le gay qui ne s'est pas vu vieillir. On était seuls, sous le soleil, sur la route, et Didier Lestrade a demandé « J'ai fait une pizza, ça ira ?» Carrément, j'ai dit. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where aujourd'hui, c'est chez Didier Lestrade, journaliste, écrivain. Il vient de publier ses mémoires et à la fin, il y a une playlist de plus de 200 morceaux parce que la musique a toujours été dans sa vie. Didier Lestrade a raconté la dance music, l'arrivée du hip-hop dans ses articles, en même temps que l'arrivée du VIH, le virus du sida. En 1989, il cofonde ACT UP avec Pascal Loubet et Luc Coulavin et devient l'un des pionniers de la lutte contre le sida en France. Je l'ai retrouvé chez lui, à la campagne, en Mayenne. La table était mise et il n'avait pas fait de feu pour éviter que ça fasse du bruit.
Alors c'est petit. Hein.
Je prends la clé ?
Non, je prends la clé.
Je
Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc au moment de l'arrivée du sida. Et en lisant votre livre, je n'avais pas mesuré à quel point, finalement, ce virus était arrivé à un moment où la communauté homosexuelle était de plus en plus visible. Déjà avec la dépénalisation de l'homosexualité par l'OMS, avec l'ouverture des bars gays, l'arrivée de films comme Tootsie, qui étaient des succès grand public. C'est-à-dire que l'épidémie est arrivée à un moment, pas d'apogée, mais d'une évolution, d'un progrès, quoi.
Je crois que c'est l'arrivée de la gauche, en tout cas pour nous, qui a été très importante. Hein. Ça a tout changé du jour au lendemain. Le fait de plus être inquiété sur les lieux de drague à l'extérieur, il y a vraiment une compréhension. Et puis, c'est vrai que tous les mouvements qui avaient été importants au niveau gay dans les années 70 ont vraiment bourgeonné et se sont vraiment développés et ont porté des fruits pendant les années 80. C'est vrai que quand je parle de la sortie de films comme Tootsie, ces films-là, il y en a eu Querelle, c'est sorti la même année en 82-83, et c'est vrai qu'il y avait une concordance. On voyait ces affiches dans la rue, et au niveau du cinéma, eh ben, on voyait bien qu'il y avait un reflet de ce qui se passait dans la vraie vie des gays, des lesbiennes, des personnes trans à cette époque. Parce qu'il y a eu une période entre 80 et 85-86 où quand même le VIH n'était pas si présent que ça. Hein. Tous les chiffres les montrent, l'arrivée du VIH en France est 86 au moment où je suis contaminé. La première campagne de prévention de Michel Barzac, c'est 87. Le sida ne passera pas par moi. Donc on a eu une période où franchement, c'était une liberté totale. C'est très rare quand on arrive à Paris à 20 ans et qu'on se trouve dans une conjoncture si positive. On n'avait pas d'argent, mais moi j'ai un souvenir par exemple de l'année 78. Paris en 78, pour moi, brillait. J'avais l'impression qu'il y avait des particules d'or dans l'air. Et quand vous regardez les bouquins d'Armistead Maupin qui parlent de San Francisco à la fin des années 70, début 80, c'est les mêmes paillettes d'or qui sont dans l'air, qui sont dans la brume, qui sont au bord de la mer. Toutes ces histoires montrent un âge d'or, en fait. Cette explosion de disco en 1978 avec La Vie en Rose à Paris, l'ouverture du Palace, c'était vraiment quelque chose d'incroyable.
Mais d'ailleurs, il y a à la fois le côté beaucoup plus ouvert de la société par rapport à la communauté homosexuelle, mais il y a aussi dans le livre, puisqu'il s'agit de vos mémoires, un moment où vous-même, vous êtes d'une certaine façon au top de votre sexualité, parce qu'il y a eu 10 années d'apprentissage. C'est-à-dire que les hommes de votre génération, l'épidémie de sida arrive à un moment où vous êtes en pleine possession de ça. Et c'est le moment où vous pouvez en jouir le mieux, en fait.
Oui, je crois que c'est ça qui était le drame un peu existentiel des gays de cette époque-là, c'est que cette épidémie effrayante arrive à un moment où on était heureux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un certain déni au début, hein, c'est-à-dire de la part des gays, de penser en 82-83, après la découverte du virus, que ce truc-là était enfin, science-fictionnesque, à un moment où, au contraire, enfin, on arrivait à obtenir ce qu'on avait espéré pendant toutes les années 70 et 60.
Il y a un moment où, finalement, il était possible de croire au progrès.
Je crois que ce livre, il explique dans une certaine mesure aussi la naïveté dans laquelle j'étais, parce que je crois que ce cours de l'histoire, de progresser, d'être la réforme, les changements de société, une société quand même beaucoup moins antagoniste qu'elle est aujourd'hui, et donc on était dans une croyance un peu naïve qu'on allait sur la bonne voie en termes de lutte contre le racisme, en termes d'avancer de la société, de la culture, de l'art. Enfin, il faut regarder tous les artistes homosexuels de cette époque, ils sont joyeux. Des gens comme Kissaring, c'est pas du Francis Bacon, c'est vraiment une sorte d'explosion de couleurs et de joie. Et c'est pour ça que ces artistes ont été si aimés. D'abord, c'était notre génération. Et puis surtout, c'est que c'était une forme d'art qui était internationale. Donc, on voyait bien qu'il y avait un courant libérateur et que ce qui se passait dans la communauté gay pouvait s'appliquer aux autres minorités. Et on y a cru très fort, ça, ce côté libérateur de la culture homosexuelle. Et maintenant, on voit très bien que... Enfin, on n'en est plus à ce niveau-là. Donc... Mais c'est vrai que je rappelle dans mon livre que quand on a créé ACT UP, il y avait tout un paquet de pays en 89 qui ont changé, qui ont basculé, qui ont découvert la démocratie. Et je crois que la fin des années 80, même si le sida est arrivé, était un moment vraiment où les choses s'amélioraient au niveau international. Donc il y avait un contexte d'espoir. Malgré le désespoir de la maladie, on avait quand même une possibilité d'entrevoir la possibilité d'améliorer les choses. Il faut que j'aille mettre la pizza au four.
Ah, ok.
Chez Didier Lestrade, écrivain, journaliste, cofondateur d'ACT UP, c'est Totémique. Didier Lestrade vient donc de publier ses mémoires chez Stock. Il y a un index des noms et des lieux à la fin, de A comme Algérie, AW comme Woodstock, de A comme ACT UP, AW comme Warhol. Et l'une des figures qui revient le plus régulièrement dans ses mémoires, c'est le musicien-chanteur Jimmy Somerville. Jimmy Somerville, co-auteur du tube Small Town Boy, qui figure sur l'album contestataire The Age of Consent de son groupe Bronski Beat en 1984. Small Town Boy est le récit d'un jeune gay qui quitte sa petite ville pour rejoindre la capitale et il fait face à l'homophobie.
C'est très rare parce que Jimmy en fait est dans trois chapitres du livre. Il est dans le chapitre sur la musique, bien sûr, il est dans le chapitre sur le travail, sur le militantisme, et il est dans le chapitre des amis et des amants parce que c'est très rare en fait quand on est journaliste d'avoir une amitié avec un artiste et une amitié qui dure 40 ans. Donc, Jimmy, je donne une grande part de mon livre à lui pour le créditer, parce que, d'abord, c'est très rare de voir des gens s'engager autant au niveau politiquement. Je ne crois pas qu'ACT UP aurait pu se développer sans l'aide de Jimmy.
Une aide très concrète de vous aider à avoir un appart pour organiser les réunions, apporter un financement aussi.
Il y a eu un concert de soutien au Cirque d'hiver qui a été vraiment une belle réussite. Jimmy est fondamental parce que quand même, il y a eu au plus l'année dernière le 40e anniversaire de Small Town Boy. Et donc forcément, cet anniversaire aussi, ça a été le 40e anniversaire de notre amitié parce qu'on s'est rencontrés tout de suite.
On va justement écouter sa voix à l'occasion du 40e anniversaire de cette chanson. Alors...
To your soul, cry.
Ça, c'est le côté drôle de Jimmy.
Bref, il y a 40 ans aujourd'hui, sortait Small Town Boy. Et je me souviens de notre premier Top of the Pop, diffusé dans tous les salons du pays, puis à travers l'Europe, avec les pop shows. Nous étions trois jeunes hommes gays, ayant fait leur coming out, fiers, et face à tout le monde. À l'époque, on avait un message qui résonne encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Les choses semblent régresser dans tellement de pays. Les droits sont reniés et il y a une vraie flambée de l'homophobie, des agressions et des discriminations envers ceux qui désirent simplement être eux-mêmes et aimer qui ils veulent. Et vous savez quoi? Dégagez. Occupez-vous de votre propre vie et laissez les autres vivre la leur.
Il est incroyable parce que c'est typique de lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le crédit de ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va toujours se tourner vers la vision globale, hein, de ce qui se passe ailleurs, de l'évolution de la société. Et c'est vrai ce qu'il raconte sur Bronski Beat. Moi, j'avais attendu ça toute ma vie, c'est-à-dire d'avoir un groupe gay simple, qui se maquille pas, qui porte exactement les mêmes fringues que dans la vraie vie. Il faut pas oublier l'homophobie quand même qu'il y avait dans les maisons de disques au début des années 80. Et Jimmy a foutu ça en l'air parce que cette manière de se montrer tel quel, out, en tant que gay, et sans chercher à faire du scandale comme Frankie, Ghost Hollywood, des trucs comme ça, c'était unique. Et je crois que c'est la position en fait la plus moderne qu'on puisse obtenir, hein, parce que Boy George, tous les autres, ils ont dû jouer avec une soi-disant bisexualité, etc., qui était quand même assez mensongère. Mais c'est vrai que bon, la célébrité de Boy George était beaucoup plus grande que celle de Bronski. Culture Club était un énorme groupe dans les années 80.
La musique, elle est présente, c'est vraiment le fil rouge de vos mémoires, et arrive la nouvelle de votre séropositivité. Et en fait, vous écrivez qu'à un moment, vous avez été expert et dans ce domaine de la séropositivité et dans le domaine de la musique, de la dance music. Et vous faites le lien, en fait, entre les deux.
Ben oui, parce que pour moi, la dance music a décollé avec l'arrivée du sida. C'est évident, quoi. C'est-à-dire que il y avait un point de jonction. Cette musique qu'on écoutait dans les clubs, c'était une musique thérapeutique au moment où le sida n'avait pas de traitement. Donc, forcément, il y avait une allégorie dans ces chansons du désespoir et de la beauté aussi de la musique. C'est-à-dire que le club, c'est là où on rencontre les garçons, c'est là où on tombe amoureux. Donc, on voit les corrélations entre ces deux mouvements. Certains clubbers qui disparaissent du dance floor parce que ben ils meurent, et forcément la musique est témoin de ça. Et le VIH devient plus tolérable, supportable avec la musique. Donc ça a été ma particularité de mélanger les deux, et je crois que ça touchait beaucoup de gens. Il y a un militant à ACT UP qui est décédé, qui s'appelle Hervé Robin, qui a sorti ce slogan incroyable, qui « Sida is disco », qu'on peut regarder sous plein d'angles différents, parce que ça veut dire plein de choses différentes. Mais cette manière de résumer en trois mots deux cultures différentes, ben, il fallait le faire.
C'est la pizza qui est cuite.
Pourquoi You Make Me Feel de Sylvester? Parce que c'est le tube que Didier Lestrade, journaliste, écrivain, a choisi. Mais ce n'est pas cette version qu'il a voulu. C'est celle qui figure à la fin de l'album Step 2 de Sylvester et qui s'intitule Épilogue.
Sylvester a été le basculement dans ma vie de... Avant, j'étais influencé par le rock et le punk, et quand j'ai écouté cet album-là, c'est l'album qui m'a fait vraiment basculer dans la musique noire. Pourquoi Sylvester? Parce que c'est vraiment quelqu'un de... C'est une folle qui a fait du drag, qui a fait partie des coquettes. C'est une personnalité gay, super queer, super tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation sur Sylvester. Parce que ce n'est pas que seulement You Make Me Feel qui a été important, c'est toute sa carrière après. Il a fait énormément de tubes avec des morceaux très beaux comme Stars, comme I Who Have Nothing. Et c'est devenu une égérie un peu comme Divine, l'acteur préféré de John Waters dans les années 70 et 80. Donc, Sylvester, pour moi, ça faisait partie des personnes que je devais absolument interviewer pour magazine. magazine, la petite revue que j'avais fait, Underground, de 80 à 86. Il fallait absolument qu'il y ait des gens comme David Hockney, comme Sylvester. Ça faisait partie de mes objectifs dès le début.
Ce que vous avez posé avec Magazine, c'est une idée du bonheur homosexuel, si je puis dire. C'est-à-dire que, et Sylvester, You Make Me Feel, c'est une chanson de jouissance, de bonheur. Et Magazine allait dans ce sens-là, tandis que vous expliquez dans vos mémoires que finalement, vous, vous avez grandi dans une culture homosexuelle qui parlait beaucoup d'autodestruction, qui allait beaucoup dans le sens du drame, y compris par les homosexuels eux-mêmes.
Bah, c'est un peu le livre de Vito Russo, Celluloid Closet, qui dit que, grosso modo, dans le cinéma des années 50, 60, 70, eh ben, il fallait qu'il y ait un drame. Hein. C'est un peu comme les acteurs noirs aujourd'hui. Dans un film d'action, le premier personnage qui va mourir, c'est un acteur noir. Donc, tous les films qui parlaient d'homosexualité dans les années 70, c'était des films où le héros mourait. Les bouquins d'Yves Navarre, c'était très triste. Il y avait une sorte d'émerveillement dans le drame homosexuel que notre génération a refusé. Donc, dans Magazine, non, il n'y a pas eu de tristesse. J'explique que c'était un magazine qui n'était pas fait pour refléter la difficulté de la vie sociale. C'était au contraire, je montrais que c'était dans une idée de bonheur. Et donc, je crois que ma génération a tourné le dos à ce qui avait traumatisé les artistes précédents, en fait.
Pour votre carte blanche, vous avez choisi de lire un passage du début du livre.
Donc la préface s'appelle « House of Lestrade », parce que je parle beaucoup dans ce livre de mes frères, et ça commence comme ça. Quand j'avais 20 ans, je me demandais en me regardant dans la glace si, étant vieux, je coucherais avec moi-même. Pendant longtemps, ce fut un non catégorique. Après, à cause du VIH, c'était toujours non. Le seul moment où j'ai commencé à me trouver sexy, c'est finalement à 22 ans, durant la période Magazine, la revue gay que j'ai dirigée entre 1980 et 86. Et je sais pourquoi. Le sida n'avait pas encore phagocyté ma vie. À 66 ans, le VIH me colle à la peau depuis plus de 3 décennies, ce qui fait de moi un survivant, mais aussi un dinosaure. Et tous les grands dinosaures de ma génération sont morts, et avec eux leurs paroles et leur avis sur le monde. Je n'arrive pas à la cheville de Sylvester et de Keith Haring, mais ma place est de les célébrer. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais un groupie de moi-même. Pourquoi ça vous a plu ?
Parce que ça présente qui vous êtes, parce que ça raconte le côté frontal de ses mémoires, où il n'y a pas de fioriture, et aussi pour cette dernière phrase, où vous vous foutez de vous présenter sous un jour favorable, où on peut se dire à l'issue de cette dernière phrase, mais il se la pète.
Oui.
Et vous vous en foutez d'être sympathique.
Non, si, je suis quand même... J'aime bien séduire les gens, j'aime bien... Je sais que maintenant je sais parler, même si j'ai une manière de parler qui est un peu... Je me trompe souvent de mots, mais j'ai pas voulu faire un livre qui soit triste. J'ai enlevé beaucoup d'aspects tristes de ma vie pour essayer de faire quelque chose de positif. Il y a certains amis, par exemple, dont je ne parle pas parce que la fin de l'amitié n'est pas bonne. Et je n'ai pas parlé beaucoup de mes médicaments, je n'ai pas parlé beaucoup de l'aspect VIH, tout ça, parce que j'ai passé toute ma vie à parler de ça. Et je pensais que pour ce livre, ben, il fallait donner quand même un reflet assez positif, parce que je suis quand même à la fin de ma vie, enfin je suis à la retraite, et je suis obligé de réaliser que bon, ben, ça va, j'ai fait quand même des trucs pas trop mal, quoi. Donc...
Ouais, mais en même temps, vous êtes aussi assez sans concession. C'est-à-dire que là, effectivement, vous vous dites, si j'avais 20 ans, je serais fan de moi-même.
Oui, mais je le pense vraiment. Quand j'avais 20 ans, j'étais en train de regarder les vieux en me disant, où est-ce qu'ils sont ? Qui sont les vieux qui sont intéressants, que je voudrais interviewer ? Et Magazine, c'était ça. On a interviewé beaucoup de vieux des années 50, des années 60, parce qu'on admirait leur héritage. Donc, je pense que c'est une manière de dire aux jeunes, arrêtez de chipoter sur les petits détails, mais essayez d'être un peu plus... de vous intéresser à ceux qui vous ont précédé. C'est ça, mon truc.
Il y a une dernière séquence, et on va la faire dans la cuisine, si vous voulez bien. C'est une petite séquence photo.
Vous allez vous prendre une photo ?
Ouais.
Et vous voulez me prendre en photo en posant ou en faisant une...
Le truc le plus simple possible. Pendant que vous faites la salade ?
Oui.
Non. Ok.
Oui, vous pouvez me prendre en photo pendant que je fais la vinaigrette. Non ?
Ouais.
Parce que de toute façon, il faut qu'on se presse. Donc...
Et voilà.
C'était rapide. Vous êtes sûr qu'elle est bien ?
On va vérifier. Regardez.
Ok, c'est drôle.
Merci Didier Lestrade.
Non, c'est un plaisir. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Didier Lestrade, Mémoire 1958-2024, le livre vient de paraître chez Stock. Koyen Guyen réalise Totémique et c'était avec Benjamin Wagon ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco a préparé l'émission avec Célestine Babinet. Et pour aujourd'hui, J.B. Audibert avait choisi le titre Pink Pony Club de Chapel Roan. La semaine prochaine, rendez-vous en studio avec le rappeur Dinos. Ensuite, je vous propose une rencontre avec l'autrice Neige Sino, puis la comédienne Laura Felpin.